Moi, personnellement, je suis fatigué d'entendre toujours le même refrain. Les musulmans, les musulmans, les musulmans. Et c'est systématiquement avant les élections.
À Mulhouse, les habitants ne cachent pas leur lassitude. C'est chez eux qu'Emmanuel Macron viendra parler de communautarisme tout à l'heure. Le président de la République doit faire une série d'annonces. Sur place, on dénonce une manœuvre électorale.
Piotr Pawlenski et sa compagne ont passé la nuit au dépôt. Ils seront présentés dans la journée à un juge en vue d'une mise en examen.
Quand des photos Facebook vous dénoncent auprès du fisc, le data mining, l'exploration de données, a permis l'an dernier à Bercy de récupérer près de 800 millions d'euros auprès de fraudeurs fiscaux.
Dans ce journal, vous entendrez des clients floués par le site de billetterie Viagogo.
Quand je suis arrivé au guichet, la personne du stade m'a dit « Bah oui, Viagogo, on a l'habitude ». Il ne faut rien faire pour vous. C'est l'en-là que le pur est dur.
L'UFC que choisir porte plainte.
Et puis, frisson garanti ce soir à Dortmund. Un mur jaune. 16 000 supporters prêts à pousser leur club face au PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions.
6h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Marguerite Lefebvre.
La séquence était attendue depuis l'automne dernier, depuis l'attentat de la préfecture de police de Paris. Emmanuel Macron s'empare aujourd'hui de l'un des dossiers les plus sensibles du moment, la lutte contre le séparatisme et le communautarisme. Il doit faire une série d'annonces lors de son déplacement à Mulhouse, dans le quartier de Bourdwiller. Une visite qui, sur place, étonne les habitants. Reportage Arthur Mbaché.
Ils sortent de la mosquée du quartier et découvrent l'intitulé officiel de la visite présidentielle ici à Bourdwiller, séparatisme islamiste. Mohamed Salah Ebrahim.
Moi qui vis dans le quartier, qui habite dans le quartier, qui a étudié dans le quartier, j'ai pas entendu ce genre de choses. Au contraire, on vit avec les valeurs de chacun.
Moi, personnellement, je suis fatigué d'entendre toujours le même refrain. Les musulmans, les musulmans, les musulmans. Et c'est systématiquement avant les élections.
C'est des thématiques qui sont prises par le Front National. Et que M. Macron essaye de récupérer les électeurs du Front National pour les prochaines élections, c'est tout.
Au bout de la rue, à l'arrêt du tram, l'embarras et la franchise d'une équipe de militants qui tracte pour la candidate macroniste. Le président de la République choisit Bourdwiller pour parler de séparatisme islamiste.
Non, j'ai du mal à saisir. Mes enfants ont tous fait le collège de Bourdwiller, qui est ce collège ici dans le quartier un petit peu difficile. Et je sens pas forcément une radicalisation ou des choses plus difficiles dans le quartier.
Il sera question ici tout à l'heure de la grande nouvelle mosquée de l'autre côté de Mulhouse, controversée à cause de ses financements du Qatar. Commentaire d'un militant En Marche.
On se pose moins de questions quand le Qatar finance le PSG.
Bourdwiller, Arthur Mbaché, Europe 1.
Et sur ce thème du communautarisme, le président de la République enchaînera plusieurs autres déplacements, sans doute dès la semaine prochaine.
Et dès ce matin, à 6h40, je reçois François Pupponi, l'ancien maire de Sarcelles, qui est aujourd'hui député socialiste. Il publie le livre Les Émirats de la République. Il sera dans ce studio à 6h40 pour répondre à nos questions. C'était son baptême du feu hier. À peine nommé, Olivier Véran s'est retrouvé au cœur de l'actualité. Lui qui incarne désormais la réforme des retraites.
Le nouveau ministre des Solidarités et de la Santé a lancé officiellement les débats dans l'hémicycle. Il a affronté la colère de l'opposition lors de sa prise de parole, interrompue à plusieurs reprises.
Le projet que nous vous présentons est un projet annoncé de longue date. Ce projet a la légitimité d'un programme présidentiel. Il a la légitimité d'une concertation. Il a la légitimité d'un rapport préparatoire conduit sous l'égide de Jean-Paul Delevoye. Et j'espère qu'il aura demain la légitimité large accordée par la confiance des parlementaires. L'heure est aujourd'hui à la responsabilité face aux Français, par une discussion qui prendra le temps qu'elle prendra, y compris dans le brouhaha, mesdames et messieurs les députés, si nécessaire. Parce que nous respectons le Parlement et nous respectons les moyens de l'opposition, même lorsque ces moyens ne sont pas mis au service de la progression du débat. Et j'espère que mes collègues qui me suivront pourront parler dans autre chose qu'un brouhaha immense que celui que vous offrez aujourd'hui à la représentation nationale.
Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé qui récupère tous les chantiers jusque-là gérés par Agnès Buzyn. Il y a donc les retraites, bien sûr, mais aussi l'épidémie de coronavirus.
Une réunion se tient ce matin au ministère de la Santé pour imaginer tous les scénarios possibles et préparer les plans à déclencher le cas échéant. En France, 6 personnes sont toujours hospitalisées. Leur garde à vue a pris fin hier soir. Piotr Pawlenski et sa compagne ont passé la nuit au tribunal. Ils seront présentés à un juge dans la journée.
Tous deux risquent une mise en examen pour leur rôle dans l'affaire Benjamin Griveaux. Qu'ont-ils révélé aux enquêteurs lors de leur garde à vue? Que sait-on de leur implication dans cette affaire? Des éléments de réponse avec Marion Dubreuil.
Piotr Pawlenski a gardé le silence face aux enquêteurs, mais il avait revendiqué publiquement son rôle dans la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux avant sa garde à vue. Le degré d'implication de sa compagne est moins clair. Elle est la destinataire des vidéos intimes de Benjamin Griveaux en mai 2018. Elle avait d'ailleurs eu une liaison avec le porte-parole du gouvernement à l'époque, mais il n'est pas établi qu'elle ait délibérément transmis ces images à caractère sexuel à Piotr Pawlinski, son compagnon actuel. Les enquêteurs vont donc procéder à des vérifications de son matériel informatique pour déterminer si son smartphone ou son ordinateur ont pu être piratés. Le couple sera présenté dans la matinée à un juge d'instruction qui pourrait les mettre en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel.
Aux États-Unis, première journée de délibération ce mardi dans le procès Weinstein. Les débats se sont achevés hier après 3 semaines d'audience. Le producteur de cinéma, jugé pour viol et agression sexuelle, a plaidé non coupable. Il risque la prison à vie.
Europe 1, il est 6h05.
D'où vient la pollution constatée l'an dernier dans la Loire et la Vienne?
Une pollution au tritium confirmée à l'automne dernier par l'autorité de sûreté nucléaire. Les centrales situées à proximité ont été mises hors de cause. Pour le réseau sortir du nucléaire, le coupable est évident. Cette EDF qui aurait rejeté ces substances, le réseau a décidé de porter plainte. Écoutez l'une de ses membres, Charlotte Mijon.
Nous déposons plainte pour faire condamner EDF, tout simplement parce que en janvier 2019, des prélèvements ont été effectués dans l'eau de la Loire et une contamination importante et hors norme au tritium, un élément radioactif, y a été détectée. Cette contamination est bien plus importante que le cumul de ce que toutes les centrales situées sur la Loire et la Vienne sont autorisées à rejeter. Donc il y a au moins une des centrales qui a rejeté plus qu'elle n'est autorisée à le faire et qu'il y a probablement eu un rejet dissimulé par EDF. Donc il n'est pas acceptable que l'eau potable destinée à la consommation humaine soit polluée par les installations nucléaires.
Charlotte Mijon du réseau Sortir du Nucléaire avec Jean-Jacques Héry. La technique est désormais utilisée quotidiennement à Bercy. C'est, il faut le dire, un puissant coup de main dans la lutte contre la fraude fiscale.
Le data mining, autrement dit l'exploration de données récupérées notamment sur Internet. L'an dernier, près de 800 millions d'euros ont été récupérés grâce à ces algorithmes. Le data mining présente par Maud Descamps.
C'est l'arme secrète de Bercy, le data mining, une technique qui permet de détecter les fraudes fiscales en comparant par exemple votre train de vie sur Facebook et votre déclaration de revenus. L'an dernier, cette technique a permis à l'administration fiscale de récupérer 785 millions d'euros, c'est 142% de plus qu'en 2018. Une technique qui permet de repérer les fraudeurs et de déclencher des contrôles, comme l'a détaillé le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin.
La part de la programmation des contrôles fiscaux issus de ces données informatiques a plus que triplé par rapport à 2017. Il était de 6% en 2017. Désormais, c'est à peu près 22% en 2019 des contrôles qui sont faits sur la base des éléments informatiques et de données que nous avons évoquées. Et nous avons une imagination pour arriver à peu près à 50%, c'est-à-dire la moitié des contrôles fiscaux à la fin du quinquennat.
L'an dernier, ce sont au total 100 000 dossiers qui ont été instruits grâce à cette intelligence artificielle.
Opération à 6 milliards d'euros pour Alstom qui a annoncé hier le rachat de Bombardier Transport, son rival canadien. Un changement de dimension pour le groupe français qui s'apprête à doubler de taille.
Et à 7h40, je reçois Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom. Il va nous expliquer justement les projets, pourquoi Alstom veut racheter Bombardier Transport justement pour faire un géant du ferroviaire. Et que dira Bruxelles cette fois après l'échec de la fusion Alstom-Siemens? Nous parlerons de ces sujets avec Henri Poupart-Lafarge à 7h40 sur Europe 1. C'est un appel au secours dont on va parler à présent. Un appel lancé par le patron d'une PME basée dans le Gers. Il dénonce l'une des dispositions de la loi Egalim, la loi égalité alimentation.
Cette disposition qui, depuis le printemps dernier, encadre et limite fortement les promotions sur certains produits alimentaires. Bonjour Bernard Jambert. Bonjour Monsieur Jambert.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Vous êtes le patron de Jambert Océan, qui est spécialisé dans la vente de produits surgelés. Cette règle sur les promotions, pour vous, c'est clairement ce qui a fait chuter votre chiffre d'affaires ces derniers mois?
Tout à fait. Tout à fait. Puisque notre chiffre d'affaires est passé de 23 millions à 17 millions. Voilà l'effet principal de l'Egalim en ce qui nous concerne.
Avec un effet sur l'emploi, notamment chez vous, je crois.
Alors, avec un effet sur l'emploi, parce que effectivement, on ne peut pas rester sans réaction avec par rapport à une telle brutalité. Hein, il faut s'adapter, parce que c'est très très soudain. Donc, effectivement, nous avons été obligés de nous séparer de 22% de nos salariés, de 22 de nos salariés, c'est-à-dire 25% de notre effectif.
Ce sont les PME qui payent le plus le prix de cette loi, plutôt que les grandes entreprises qui, elles, parviennent à résister, qui ont plus de marge de manœuvre?
Ah non, je ne crois pas que les grandes entreprises résistent, je crois qu'elles en profitent, si vous pouvez, si je peux me permettre. Donc effectivement, ce sont les PME qui sont victimes, parce que les PME avaient, pour une grande partie, avec comme modèle économique l'usage de la promotion, c'est-à-dire du marketing direct, puisqu'elles n'ont pas forcément accès à des politiques de communication de notoriété où les seuils d'entrée sont trop importants pour elles.
Pour vous, les promotions sont l'outil qui permet de faire connaître votre entreprise. Et vous demandez du coup au gouvernement des dérogations, c'est cela ?
Alors, je ne demande pas des dérogations. Il y a une disposition qui a été donnée par la DGCRF au mois de juillet 2019 qui permettait à cette même DGCRF d'accorder des dérogations aux entreprises en grande difficulté. Donc c'est pas c'est une dérogation qui a été à l'instigation du gouvernement. La problématique, c'est que nous avons fait une demande il y a plus de 3 mois et que nous avons en réponse un silence assourdissant. Et quand on sait que cette dérogation a été accordée au moins une fois, si ce n'est qu'une fois, on peut se poser des questions. Nous avons vraiment l'impression d'être discriminés, voire méprisés, puisque à la limite, nous, ce que nous attendons, c'est une réponse. Peut-être qu'on ne rentre pas dans le cadre de la dérogation. Peut-être que nous ne sommes pas suffisamment atteints, je ne sais pas. Mais à tous les moins qu'on nous réponde.
Au moins une réponse. Merci beaucoup Bernard Gimbert, merci d'avoir été en direct avec nous dans le journal de 6h sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le patron de Gimbert Océan, spécialisé dans la vente de produits surgelés.
On vous en parlait hier, les craintes d'une contamination au virus de la tomate dans le Finistère. Les analyses confirment la présence du virus sur une exploitation. Le virus n'est pas dangereux pour l'homme, mais il est extrêmement contagieux. Tous les plans de cette exploitation concernés vont donc être détruits.
Europe 1, il est 6h11.
Vous faites peut-être partie des consommateurs lésés qui ont eu de mauvaises surprises avec le site Viagogo.
Ce site de revente de billets dans le viseur aujourd'hui de l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs va porter plainte pour pratiques commerciales trompeuses. Aurélien Fleureau.
Pierre a perdu près de 900 euros. Il avait prévu d'inviter des amis à voir le match de Ligue 1 entre Caen et le PSG. Sauf qu'une fois le paiement effectué, il comprend vite qu'ils ne pourront pas entrer dans le stade. Cette bande de quinquas se retrouve avec des billets au tarif moins de 18 ans.
Il y avait 7 places que j'ai achetées. J'ai payé ça plus de 100 euros la place. À ma grande surprise, c'est que j'ai reçu des places de moins de 18 ans à 12,94 €. Quand je suis arrivé au guichet, la personne du stade m'a dit « Bah oui, Viagogo, on a l'habitude. Il ne faut rien faire pour vous. » C'est normal.
Autre mauvaise surprise, le prix final est bien plus élevé que le prix affiché au moment du paiement. Ou encore, comme l'a vécu Annie qui pensait aller voir Phil Collins en concert à Lyon, le placement ne correspond pas du tout au tarif.
Il ne restait plus que quelques places. Je me disais, bon, ben 100 euros, mais déjà mieux placé que 65 euros. C'était tout en haut dans les gradins, pratiquement derrière la scène, on ne voit rien. Ça ne correspondait pas à ce que j'avais demandé. Moi, je me suis fait avoir, j'ai pas envie que d'autres gens se fassent avoir.
Malgré un recours perdu devant le Conseil constitutionnel, Viagogo continue de vendre des billets pour des événements sans l'autorisation des organisateurs.
Du football à présent, ils vont tenter de conjurer le sort et de passer l'étape des huitièmes de finale. Cette fois, les Parisiens se déplacent à Dortmund, huitièmes de finale, aller de Ligue des Champions.
Cela fait 3 ans que la route du PSG s'arrête net à ce stade de la compétition. Les hommes de Thomas Tuchel vont tenter d'inverser la tendance et ils devront pour cela dompter le mur jaune, cette tribune impressionnante aux 16 000 supporters gonflés à bloc. Un mur désormais légendaire, Cyril de la Morinerie.
C'est la tribune la plus intimidante du monde. 100 mètres de large, 40 de haut, une pente à 47 degrés. Le fameux mur jaune, bien plus qu'un 12e homme. Il promet l'enfer à toutes les équipes qui débarquent à Dortmund. Franck, un habitué de cette tribune, met en garde les joueurs du PSG.
Ah, la tribune sud, c'est une expérience. Oui, c'est toujours la folie là-bas. Ça va être un sacré moment contre le PSG. Et il va y avoir une excellente atmosphère, ça oui.
Et le mur jaune galvanise l'équipe allemande. Dortmund n'a pas perdu un seul match cette saison dans son stade, souligne le milieu du Borussia, Axel Witzel.
Ici, il y a toujours une atmosphère de fou et nous poussera à faire un top match.
Mais ce soir, ils ne seront que 16 000 dans la sub-tribune au lieu de 25 000 car l'UEFA impose des sièges. Ils sont tous prévenus. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé il y a 3 ans avec Monaco, a déjà transpercé le mur jaune.
Impressionnante hein, cette ambiance. Et puis à 21h ce soir, une soirée spéciale sur Europe 1 autour de Lionel Rousseau avec Cyril de la Morinerie et Julien Froment qui seront à Dortmund pour vous faire vivre ce match.
La secrétaire d'État Brune Poirson sera à Bruxelles aujourd'hui. Elle y défendra sa loi anti-gaspillage promulguée la semaine dernière et notamment l'une des mesures qui fait beaucoup parler aujourd'hui, la pollution causée par les lave-linges qui rejettent des milliers de particules plastiques dans les eaux usées. Toutes les nouvelles machines seront équipées d'un filtre en 2025. Une réunion se tenait hier avec les fabricants. Les explications de Marion Gauthier.
Je vais me battre pour faire en sorte que cette mesure, ce ne soit pas qu'une mesure française, mais ça soit bien une mesure qui soit adoptée au niveau européen.
Derrière cette déclaration d'intention de Brune Poirson, tout reste à inventer. Pour qu'un filtre soit effectivement installé dans toutes les machines d'ici à 2025, il faut d'abord que ce filtre soit créé. La France lance ce défi, mais les solutions dépassent ses frontières. Bosch, Siemens, Electrolux, une dizaine d'industriels de l'électroménager participaient à la réunion d'hier. Une première victoire pour Camille Beurdelet, déléguée générale du GIFAM, syndicat des fabricants.
On est dans une industrie qui est européenne et qui nécessite que l'ensemble des acteurs à un niveau européen puissent travailler ensemble sur ces sujets-là. Il va falloir prendre en compte à la fois les coûts, les contraintes d'utilisation de ces filtres pour le consommateur notamment. Ça veut dire que le consommateur doit vraiment adhérer au nettoyage des filtres ou au recyclage en fin de vie de ces filtres.
Les fabricants soulignent cependant que le problème ne vient pas seulement des machines mais surtout du linge que les Européens mettent à l'intérieur. L'industrie textile qui, de l'aveu de Brune Poirson elle-même, reste la deuxième la plus polluante au monde après l'industrie pétrolière.
Les explications de Marion Gauthier pour Europe 1.
Merci Marguerite Lefebvre. On va voir comment ce sera mis en place ensuite de manière industrielle, parce qu'il y a l'idée puis il y a la mise en place, parce qu'on n'aura pas tous je suis pas convaincu qu'on ait une production de lave-linge spécifiquement pour la France. Comment les constructeurs vont-ils s'adapter? C'est un enjeu et on le raconte, on suivra ce dossier évidemment après cette annonce de Brune Poirson. Merci Marguerite Lefebvre, c'était le journal de 6h. À 6h30, on va retrouver Jérôme Lacroix pour une nouvelle édition.